ce bulletin d'information. Au revoir.
I have a dream. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver dans le cadre de l'Amérique et vous. Vous êtes bien sur VOA Afrique. Nous émettons depuis Washington DC aux États-Unis dans l'Amérique et vous, édition de ce vendredi 20 août 2021. Nous parlerons de l'éducation. National Center for Education Statistics, il y avait 3982 établissements post-secondaires délivrant des diplômes aux États-Unis pour l'année scolaire 2019-2020. Dans l'ensemble, souligne News and World Report, le nombre de collèges aux États-Unis est en baisse constante depuis l'année scolaire 2012-2013, en particulier dans le secteur à but lucratif. À l'origine de cette chute, des problèmes financiers des universités et collèges, notamment la baisse des inscriptions et des difficultés d'obtention d'une aide financière pour leurs étudiants. Pour autant, les universités américaines restent les plus cotées dans le monde et continuent d'attirer des milliers d'étudiants, y compris d'Afrique. Les diplômes américains ont une réputation internationale exceptionnelle. Le système éducatif reste flexible et offre des possibilités de recherche, mais étudier aux États-Unis coûte cher. Alors, que fait-on lorsqu'on a franchi cet obstacle financier et obtenu son diplôme? Que se passe-t-il dans les campus et comment y accéder? Des questions et bien d'autres auxquelles nous tenterons de répondre dans cette émission. Et pour nous accompagner au cours des prochaines minutes, nous avons à New York Souleymane Bachir Ndiagne. Il est professeur à Columbia University à New York. Professeur, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Et toujours à New York, nous avons Mohamed Mbodge avec nous. Justement, il est professeur d'histoire au Manhattan College de New York. Monsieur Mbodge, bonsoir.
Bonsoir.
Merci également d'être avec nous. À Houston, au Texas, nous avons Clémence Samba. Elle est mère de 4 enfants, si je ne m'abuse, travailleuse. Et surtout, elle vient fraîchement de décrocher son MBA à l'University of Houston Downtown. Clémence, bonsoir.
Bonsoir.
Merci donc d'être avec nous. Merci. Souleymane Bachir Ndiagne, on le disait en introduction de cette émission, les universités américaines restent les plus cotées dans le monde et continuent d'attirer des milliers d'étudiants, y compris d'Afrique. Comment s'est bâtie cette réputation et notamment celle de Columbia University où vous enseignez?
Alors, la réponse la plus courte à donner, c'est que cette réputation s'est bâtie sur des siècles. Vous connaissez la blague, il y a une blague qui consiste à dire que quelqu'un s'est présenté devant le président de Harvard en disant comment est-ce que je vais construire une université du même rang que la vôtre. Et le président de Harvard lui aurait répondu, écoutez, vous mettez tant de milliards de dollars, vous mettez une construction de telle ou telle nature et vous vous arrangez pour avoir le même nombre de siècles que nous. Donc voilà, c'était une manière de dire que c'est d'abord une tradition. C'est d'abord une tradition très solide qui fait que les universités américaines ont exercé leur attraction sur le reste du monde. Vous l'avez dit, le monde aujourd'hui se caractérise par des flux internationaux d'étudiants très importants parce que les classes moyennes dans le monde entier ont enflé, sont devenues plus importantes. Vous prenez le cas de l'Inde, vous prenez les pays par exemple. Donc, aujourd'hui, le nombre d'étudiants internationaux, eh bien, ces étudiants sont attirés par les universités américaines. Et ce qui mesure cette attractivité, c'est le classement de Shanghai. Et vous voyez que, immanquablement, chaque année, dès que ce classement apparaît, les universités américaines sont largement en tête de ce classement. Voilà un peu pour ce qui est de la caractérisation de l'attractivité qu'exerce, de l'attraction qu'exercent les universités américaines sur le monde académique en général.
Alors, M. Mbodge, vous êtes également enseignant. On constate ici aux États-Unis et même ailleurs dans le monde de plus en plus qu'il y a un véritable fossé entre le privé et le public en ce qui concerne la qualité des enseignements. Qu'est-ce qui explique cela?
Aux États-Unis, les universités fonctionnent selon des modes de financement qui sont très divers. Donc, en particulier, les universités publiques, bien entendu, dépendent un peu de l'argent public, des États, des villes. Et les universités privées dépendent de ce qu'on peut appeler les investissements. Quand on est à Harvard ou Columbia et qu'on a des centaines d'années d'existence, on a investi depuis longtemps et donc quelquefois ça rapporte beaucoup plus que les universités publiques qui souvent chaque année, disons, se présentent devant la législature locale pour dire nous avons ces besoins-là, est-ce que vous pouvez les fournir? Donc ce qui fait qu'il y a une stabilité dans ce qu'on peut appeler le financement des études universitaires, en particulier dans les universités privées longuement établies, et une certaine précarité du financement pour les universités publiques en général, et qui dépendent du budget de l'État, et souvent aussi de ce qu'on peut appeler l'union politique. Certains partis politiques, à certains moments de leur évolution et de leur positionnement idéologique, ont décidé que l'enseignement supérieur n'est pas une priorité ou quelque chose comme ça. Donc, c'est cette différence de là où les financements viennent qui font qu'effectivement, il y a une différence de budget, il y a une différence de fonds de roulement, de fonds d'investissement et bien entendu aussi de la possibilité d'attirer les étudiants. Parce que la plupart des étudiants aux États-Unis, lorsqu'ils entrent dans une école, ils sont subventionnés de façon directe ou indirecte, que ce soit par des prêts ou par des bourses ou par des abattements sur la scolarité.
Voyons justement le cas d'une étudiante, Clémence Samba. Vous venez fraîchement de décrocher votre MBA. Vous êtes mère célibataire, on le disait, de 4 enfants. Vous travaillez également tous les jours. Déjà, félicitations pour cela, mais comment se sont passées les choses pour vous?
Les choses n'étaient pas très, très faciles au départ. Déjà, prendre cette décision de repartir à l'école. Je suis repartie à l'école. Déjà, j'ai un MBA. Je l'ai obtenu au Cameroun. Et j'ai décidé de rentrer à l'école ici aux États-Unis, afin que je puisse répondre aux besoins, aux attentes de certaines compagnies ici, parce que certaines compagnies n'acceptent pas des diplômes venant de l'étranger. Donc, il y avait urgence pour moi de rentrer à l'école. Et côté familial, avec les enfants, c'était pas évident parce que j'ai commencé mon MBA, j'étais enceinte et je l'ai terminé, j'étais enceinte. Donc, il fallait avoir beaucoup de force pour y arriver. Et donc, c'est un peu ça.
En tout cas, félicitations, comme on disait tout à l'heure. Souleymane Bachir Ndiagne, pour étudier dans les universités américaines, il faut débourser d'énormes sommes d'argent, on l'évoquait tout à l'heure. Les montants peuvent aller jusqu'à 75 000 $. Qu'est-ce qui explique cela?
Alors, nous l'avons dit tout à l'heure, les études coûtent de plus en plus cher, évidemment. Vous voyez, par exemple, en ce moment, Columbia est en train d'investir énormément pour s'étendre. De ma fenêtre, je peux voir une sorte de deuxième campus de Columbia, que nous appelons le campus de Manhattanville, qui est une poussée vers le nord. La même chose se passe pour l'université de NYU, New York University. Donc, il y a une espèce de course effrénée à l'investissement des universités et ensuite, évidemment, cela retombe aussi sur les étudiants. Est-ce que ce modèle est soutenable? Est la question à poser parce que les dettes des étudiants sont devenues énormes. Vous savez que le système se finance sur l'endettement. Si vous êtes très riche, évidemment, vous pouvez payer ces sommes-là. Si vous êtes très pauvre, en obtenir du financement de la part de ces universités, mais ce sont les classes moyennes qui en étaient là. Le niveau de financement que vous obtenez tient non pas à votre capacité de payer rubis sur ongle, mais à votre capacité de vous endetter. Donc, les étudiants s'endettent et ça devient un problème. Nous l'avons vu d'ailleurs pendant les campagnes électorales, la question de la dette des étudiants des études est devenue une question importante dans les campagnes électorales. Le candidat Bernie Sanders, à un moment donné, a construit véritablement une popularité énorme dans les universités et auprès des jeunes, précisément par ses propositions de gratuité de certaines universités, etc. Donc, c'est un système dont on peut se demander aujourd'hui s'il est véritablement un système soutenable au niveau d'ambition. Fait que les étudiants sortent avec déjà un handicap de ce point de vue-là. Rappelons que le président Obama lui-même, dans sa toute première campagne électorale, avait déclaré que lui-même et son épouse venaient juste de finir de payer leur dette d'étudiants. Et il était déjà sénateur de l'État de l'Illinois.
Mohamed Mboje, on se rend également compte que les universités américaines et les collèges s'efforcent de recruter et de retenir les étudiants internationaux. Est-ce que c'est plus une question de business et donc en rapport avec l'argent, comme on l'évoquait tout à l'heure avec M. Ndiang, ou plutôt de vulgarisation de la connaissance?
Dans l'ordre où vous les avez cités, c'est cette priorité. Il y a effectivement, un regard porté sur le budget de l'université. Il y a les classes moyennes qui sont en train d'exploser en dehors des États-Unis et de l'Europe, où c'est stabilisé plus ou moins, et même la tendance à diminuer dans certains pays. La classe moyenne augmente de façon très rapide, comme l'Inde ou la Chine, et même l'Afrique d'une manière générale. Et donc, cette catégorie est visée par les universités qui essaient de les attirer. Et ces étudiants payent souvent, n'étant pas des citoyens américains, ne pouvant pas bénéficier souvent de bourses d'études payées par le contribuable américain. Ces étudiants arrivent, quelquefois des familles qui sont capables de payer et d'autres fois sans dette pour suivre les études. La seconde catégorie, la seconde poussée, c'est évidemment une sorte de tradition. Les États-Unis, malgré ce que beaucoup de gens pensent, il y a quand même, surtout dans le système universitaire, une grande insistance sur les traditions, ce que nous sommes, ce que nous avons été, pourquoi nous avons été fondés là où nous existons, et qui font que ces universités essaient aussi d'être plus sensibles à ce que les étudiants et l'environnement leur disent, et donc de représenter une sorte de culture dans le collège où j'enseigne actuellement, qui a été fondé comme une collège, donc comme une université pour jeunes filles, pour bonnes jeunes filles en fait de la haute bourgeoisie dans les années 1840. Il y a toujours cette tradition où on est pro-féministe, où on est pro-égalitaire, où on est plutôt libéral dans l'attitude, et on est très fier de cela. Parce que c'est ce qui a motivé la fondation de cette institution à l'époque où les jeunes filles, même de très bonnes familles, n'étaient pas acceptées dans les universités américaines. Et donc cette sorte de DNA continue, donc ADN, enfin, continue dans notre système.
Alors, Clémence Samba, on parlait du coût des études il y a un instant. Comment est-ce que vous avez résolu cette équation?
J'ai contracté une dette étudiant parce que je pouvais pas payer ça de ma poche et il a fallu que je me renseigne et voilà, j'ai une dette que je dois rembourser. Ça va prendre quelques années, mais je pense que je vais y arriver. Je pense que je vais la rembourser d'ici quelques temps.
Vous avez contracté, vous dites, cette dette-là pour pouvoir payer vos études. Oui. Et donc, ce qui se passe, c'est que vous prenez une dette et après vous remboursez. C'est bien cela?
Oui, ce qu'ils appellent ici le loan.
Voilà. Oui. Ça, c'est pour ceux qui nous suivent et qui ne comprennent pas très bien le système ici.
L'Amérique et vous, en direct de Washington.
Souleymane Bachir Ndiagne, de nombreux étudiants rêvent de fréquenter dans les plus prestigieuses universités américaines. Dans ces registres, on entend souvent parler de la fameuse Ivy League. De quoi est-il question et qu'est-ce qui fait la différence avec les autres universités et collèges? Je souligne que l'université pour laquelle vous enseignez, Columbia University, fait partie de ce fameux classement.
Oui, alors justement, c'est l'occasion de dire que le pendant, si vous voulez, du côté financier, la raison pour laquelle les étudiants quand même continuent de s'endetter, c'est une qualité extraordinaire des enseignements. On vous a rappelé tout à l'heure que le classement de Shanghai était déterminant en général pour l'orientation des flux internationaux d'étudiants. Ce classement repose sur des enseignements d'abord. C'est-à-dire que, par exemple, pour être haut dans le classement de Shanghai, au lieu de professeurs qui ont telle ou telle distinction, qui ont des prix Nobel, etc. Ça veut dire donc que la qualité y est. Alors, Ivy League, c'est une manière de mesurer la paix. Simplement, la meilleure comparaison, c'est c'est avec les aristocraties. Vous n'êtes aristocrate. Les universités qui ont été les premières à être fondées sur le territoire américain et qui constituent une sorte de ligue à part qu'on appelle la Ivy League. Il y en a 8. Il y en a 8, ça veut dire que ça ne bougera jamais. Il y a 8 universités qui sont Ivy League. Columbia en fait partie, Harvard en fait partie, Brown, Cornell, Princeton, Yale. Etc. Il y en a 8 et il n'y en aura pas 9, il n'y en aura pas 10. Donc vous naissez à Ivy League, ces universités sont nées à Ivy League et elles resteront à Ivy League. Alors ça ne veut pas dire que vous n'avez pas beaucoup des universités qui ont la même qualité, si vous voulez. Une université comme MIT, évidemment, est largement au niveau des 8 Ivy League. Une université comme Stanford sur la côte ouest en Californie est largement à la hauteur également de ces Ivy League. Vous avez des universités d'État qui sont d'une qualité très importante également, l'Université du Michigan, etc. Et donc la qualité peut y être, mais être Ivy League, c'est, vous l'espérez, alors la figure, ces 8-là sont répertoriées.
Alors,
et en général, elles sont évidemment parmi les meilleures universités. Mais il y a d'autres universités qui sont de qualité au moins égale à celle des 8 Ivy League primitives.
Alors, et si je peux me permettre de donner cette liste, les universités qui figurent dans le Ivy League dont on parlait tout à l'heure, il y a bien sûr Princeton, Harvard, Columbia, Yale, University of Pennsylvania, il y a Dartmouth, et puis Brown University et Cornell. Oui, allez-y, M. Ndiaye.
Oui, vous avez
fait
les 8 et c'est important, oui.
Voilà. Donc, Mohamed Bodj, au plan des enseignements, quel est le parallèle qu'on peut faire entre les universités américaines et celles du continent, qu'il s'agisse de l'enseignement présentiel ou en ligne?
Les universités américaines cherchent à être très pratiques, d'une certaine façon, à être ouvertes aussi sur le monde. Et donc, cette réputation d'être des tours d'ivoire, en réalité, ne marche pas du tout. Lorsqu'on y regarde de très près, pour vous donner un exemple, lorsque l'université où j'enseigne s'est rendu compte que sa population habituelle de jeunes filles catholiques très riches, qui était son point de recrutement, s'est tarissée. En fait, l'un des noms de notre université, c'était aussi de l'appeler Kennedy School, parce que toutes les filles des familles Kennedy, donc riches, irlandaises et catholiques, choisissez un tout petit peu ce genre de collège. Et donc, lorsque cette source de recrutement s'est tarie, on est devenu co-éducationnel, c'est-à-dire garçons et filles. On a étendu l'école en y créant, par exemple, une école, une faculté d'éducation qui n'existait pas. On est en train de créer actuellement une faculté des sciences de la santé qui n'existait pas jusqu'à il y a 2 ans, 3 ans. Et ces programmes vont donner des doctorats, des masters dans quelques années. Et c'est une ouverture pratique pour que les gens qui cherchent un diplôme pour travailler, pour être nurse, docteur, pour être enseignant, puissent aller dans cette université, en même temps que les étudiants, disons, réguliers, qui font de 3 ou 4 ans pour avoir un bachelor, et qui ensuite maintenant font un master, et qui souvent prennent ces études générales, libérales, comme on les appelle ici, pour pouvoir faire autre chose. Donc il y a cette souplesse qui fait que c'est très difficile de les comparer aux universités africaines, qui souvent sont des universités d'État, qui sont très lourdes à manipuler, qui bougent très, très lentement, qui sont obligés d'accepter des étudiants bon à mal an. Ici, les étudiants sont recrutés par les universités. Les universités acceptent ou rejettent les étudiants selon plusieurs critères qui sont les performances des étudiants dans le secondaire, la capacité de leur famille à payer, le profil de leur famille, etc. Donc, il y a toutes sortes de critères qui font que il y a bien une sorte de numerus clausus qui est accepté dans le système américain. Par exemple, une des fiertés de mon université, c'est que la moyenne d'encadrement, c'est un professeur pour 12 étudiants, par exemple. Donc, on fait en sorte que lorsqu'on met tous les cours ensemble, le nombre d'étudiants inscrits, le nombre de professeurs qui enseignent, etc., on en arrive à un ratio de 12. Donc, alors, il n'y a pas entre 12 et 14. Voilà.
Alors, Clémence Samba, vous avez étudié dans les deux systèmes, c'est-à-dire en Afrique. Je rappelle que vous êtes originaire du Cameroun. Vous avez également étudié ici aux États-Unis. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Où se situe la différence?
La différence se situe déjà au niveau du bâtiment. Les salles de classe sont vraiment les études. Il est très facile et il est très confortable d'étudier dans des salles de classe ici aux États-Unis. Et par rapport au Cameroun, c'est peuplé et c'est presque difficile d'entendre ce que le professeur dit, les enseignements. Et vous avez vos ordinateurs. Vraiment, tout est mis en place aux États-Unis pour que l'étudiant mène à bien ses études. Par contre, en Afrique, au Cameroun précisément, on le fait avec les moyens de base, mais c'est pas évident. Ce n'est pas du tout évident. Déjà, ça, c'est sur le plan du bâtiment. Et donc, aussi, les professeurs sont ici aux États-Unis sont disponibles. Et moi, quand j'avais des problèmes de compréhension dans une matière, je me rendais toujours à l'université physiquement. J'essayais d'aller, je rencontrais mes professeurs et je leur expliquais mes problèmes et j'avais toujours une solution. Ce qui n'est pas évident au Cameroun, quand tu dis tu veux rencontrer le professeur, il est occupé. Il arrive, généralement c'est en classe que, et vous savez, quand les cours ont une certaine durée, donc le professeur il va répondre, mais très 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 brièvement. Donc c'est un peu ça l'une des grandes différences.
Tout à fait. Alors, il y a tellement à dire sur les études aux États-Unis qu'on ne pourrait le faire en moins de 30 minutes. On va faire un dernier tour de table et on va commencer par vous, Souleymane Bachindiagne, pour demander en quelques secondes quels conseils vous pouvez donner à ces étudiants qui nous suivent en ce moment, notamment sur le continent, et qui souhaitent étudier ici aux États-Unis.
Nous savons parfaitement quelle est la situation des étudiants qui sont eux-mêmes en Afrique. Alors, le conseil que l'on peut donner, évidemment, c'est le conseil de travailler. Malheureusement, il n'y en a pas d'autre. Ça a l'air d'être une banalité. Mais c'est surtout cela.
Et c'est avec ce mot que nous mettons un terme à cette émission. C'est la fin de l'Amérique et vous. Présentation et réalisation John Lydon, production Georges Léonard Sayo. Merci à nos invités et à vous d'avoir suivi. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com où vous pouvez réécouter cette émission ou vous informer sur l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.